fait avec d'autres chercheurs. Jean Vacquer est directeur de recherche émérite au CNRS, à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès. Et il est dans ce CNRS, il est dans l'unité de travaux de recherche archéologique sur les cultures, les espaces et les sociétés, le sigle étant TRACE. Comment ? On n'entend pas trop.
Si je parle, moi, vous m'entendez ?
C'est le plus important, en fin de compte. Moi, c'est moins important. Je voudrais juste vous dire que les prochaines conférences... Merci.
Les prochaines conférences seront donc le 11 avril, qui est une conférence exceptionnelle. Hein, c'est une conférence supplémentaire par rapport à ce que nous vous proposons d'habitude. Elle aura lieu à Palamini. Elle sera présentée par Olivier Van der Heeg, qui fera donc une conférence sur les Pyrénées, des montagnes et des hommes, évolution des idées sur la dynamique terrestre. Puis le 25 avril à Carbonne, nous aurons Dominique Ornus-Dragne, qui nous parlera du regard de la société sur le handicap. Le 23 mai à Rieux-Volvestre, Stéphane Battel, qui est un des co-directeurs du Grenier de Toulouse, viendra nous faire une conférence sur le roman du Grenier de Toulouse. Le 27 juin, à Montesquieu, Dominique Audéro nous parlera des femmes savantes, destin tragique. Je voudrais vous faire part aussi du fait que nous sommes en train de concocter le programme de l'année prochaine, donc de 2018-2019, et nous sommes volontiers preneurs des idées que vous pourriez avoir sur des sujets de conférences, avec également le conférencier, si ça vous est possible, parce que c'est toujours un peu compliqué de trouver des conférenciers. Donc, si vous avez des idées, ou bien si vous-même êtes en mesure, ou vous sentez en mesure de présenter une conférence, hein, pourquoi pas, vous avez la possibilité de nous en faire part sur le site de la Pub en Vol, par le mail qui est indiqué, contact@pubenvol.fr. Voilà. Et sinon, la dernière chose dont je voulais vous faire part, Gilbert Supéry, qui est parmi nous, et qui est lui aussi passionné d'archéologie, donne la possibilité d'avoir accès à un livret qu'il a écrit, qui s'appelle « Fin de l'ère néolithique, cas de la fille Bigordan ». Ce petit livret, que je vous montre là, est disponible sur la table là, juste à la sortie de, juste avant la sortie de la salle. Ce livret donc est vendu 5 euros si vous êtes intéressé. Bonne soirée.
Merci. Je ne sais pas comment on sort de. Je ne sais pas comment on quitte ce fichier.
Comme un autre.
Ah. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je vais vous parler du néolithique. Je vous rappelle la signification de ce mot, ça veut dire « âge de la pierre nouvelle ». Et c'est une période intermédiaire entre le paléolithique, qui concerne la vieille préhistoire, le temps des chasseurs-cueilleurs de l'époque glaciaire, et les âges des métaux. Donc, ce néolithique... J'en parlerai, c'est un phénomène mondial, hein, la néolithisation a été un phénomène mondial. Et je vais vous en parler dans la vallée de la Garonne, qui a été mon secteur de travail pendant une vingtaine d'années. Mais j'ai travaillé aussi en Espagne, en Italie, un peu partout pour avoir une vision plus globale de cette période. Alors, quelques rappels d'abord sur le néolithique. Quelques rappels sur cette période. Le néolithique, donc, c'est une période marquée par l'invention et le développement de l'agriculture, c'est-à-dire fondée sur la culture de quelques plantes, notamment les céréales et les légumineuses, qui ont été domestiquées au Proche-Orient. C'est aussi la période des débuts de l'élevage, élevage qui concernait essentiellement ce qu'on appelle la triade domestique, c'est-à-dire les bovins, les caprinés, chèvres et moutons, et les suinés, c'est-à-dire les porcs. Le cheval a été domestiqué beaucoup plus tard. Quant au chien, qui est toujours notre animal domestique préféré, il a été domestiqué bien avant le néolithique. Il a été domestiqué déjà dès les temps paléolithiques. Ces grandes inventions qui ont modifié l'économie et la démographie, par conséquent, se sont produites au Proche-Orient, aux alentours de 10 000 avant notre ère. Et peu à peu, ce néolithique, il s'est développé, il s'est étendu dans toutes les directions, vers l'Iran, l'Inde, en allant vers l'Est, et vers l'Ouest, Anatolie, puis Grèce, puis Italie, puis France. Il a fallu à peu près 3000 ans pour que cette migration, vous voyez, les migrations venant de cette région du croissant fertile, c'est-à-dire la Syrie, l'Iran et l'Irak, c'est un phénomène récent, hein, ça existe depuis des millénaires. Comment s'est produite cette migration? Ça n'a pas été une migration rapide, mais ça a été une migration lente, c'est-à-dire que dans une région, les agriculteurs s'installant dans un pays où il y avait très peu de chasseurs-cueilleurs, avec leur économie de stock de céréales et d'animaux domestiques, avaient une démographie évidemment beaucoup plus performante que celle des chasseurs-cueilleurs, qui étaient obligés de limiter leur population. Et quand une région était trop peuplée, ben on se déplaçait de 20-30 km pour coloniser les nouvelles terres. Alors si ces déplacements se faisaient à pied sur les terrains en milieu continental, ça allait lentement. Mais évidemment, dans les zones maritimes, comme la Méditerranée, ces déplacements pouvaient se faire sur des distances plus grandes. Mais grosso modo, retenez quand même que le néolithique commence vers 9000 au Proche-Orient, tandis qu'en France, par exemple, il commence vers 5500. Et en Angleterre ou au Danemark, vers 3500. Ça veut dire qu'il y a eu des décalages, hein, tout au long de cette période. Il y a eu des confrontations entre des gens qui étaient chasseurs-cueilleurs et pêcheurs, évidemment, chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, et des groupes d'agriculteurs. Et on a comparé un peu cette migration d'agriculteurs-éleveurs au milieu des chasseurs, un peu à ce qui s'est passé aux États-Unis entre le 16e, 17e et 18e siècle, où des Européens fermiers sont arrivés au milieu des Indiens. Vous savez ce qu'il en a résulté? Souvent des conflits. Et très souvent, comme les agriculteurs et les éleveurs sont plus nombreux dans une région que les chasseurs-cueilleurs, en l'occurrence les Indiens aux États-Unis, il y a eu peu à peu une substitution de population. Alors, il y a d'autres innovations au néolithique, j'en parle rapidement. D'abord, une amélioration des techniques de taille du silex qui permettent de faire des lames. Une amélioration des outillages en os aussi. L'invention d'une nouvelle forme de travailler la pierre. L'outillage est encore totalement en pierre, hein, mais non plus en le taillant, mais en le polissant. C'est-à-dire, c'est l'époque, on a souvent dit, le néolithique, c'est l'époque de la pierre polie. Et puis d'autres inventions, notamment l'artisanat textile. Et une autre invention importante pour nous, archéologues, c'est l'invention de la poterie. C'est très important pour nous, archéologues, parce que la poterie se conserve. Contrairement aux tissus, aux outils en bois, ou en corde, tout cela a disparu. Mais la poterie, par contre, une fois qu'elle est cuite, elle se conserve indéfiniment. Et c'est ce qui nous permet d'étudier les civilisations préhistoriques parce que chaque civilisation avait ses propres fauteuils. Alors la conséquence de tout ceci, la principale conséquence, c'est que l'humanité est passée d'un stade de nomades, habitant principalement des grottes et des abris, au temps paléolithique, au temps mésolithique, mais aussi au néolithique. On a continué à habiter dans les grottes et les abris. Et souvent, ces types d'habitats étaient habités par des nomades, des chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient d'une région à l'autre. Mais au néolithique, il y avait aussi quelques éleveurs qui sont restés nomades. Il y a toujours des éleveurs néolithiques nomades. Hein. Ce sont ceux qui font les transhumances, notamment dans les Pyrénées. Donc on trouve des traces de ce néolithique dans les grottes et dans les abris, mais ce qui est vraiment typique de cette période, ce sont les fermes et les villages. Pourquoi ? Parce que l'agriculture et l'élevage, qui sont des économies, ce que nous appelons nous à rendement différé, c'est-à-dire des économies où on récolte à un moment de l'année et où on consomme après toute l'année, où le mode de vie est basé sur des stocks, tout ça, ça implique qu'on ait des habitats permettant de stocker. Et comme l'humanité a toujours été toujours violente, hein, il y a toujours eu des conflits, le néolithique créant des richesses, des troupeaux, des stocks de céréales, des greniers, etc., les gens avaient tendance à se battre entre eux, et donc ils fortifiaient souvent leurs habitats. Donc vous voyez que ces grands traits de la société, qu'on imagine souvent valables pour le Moyen-Âge, par exemple, avec les châteaux forts, etc., et les fermes et les châteaux forts, c'est quelque chose qui existe en fait depuis des millénaires dans nos régions. Alors, dans nos régions, qu'est-ce qui s'est passé ? Le néolithique, évidemment, est arrivé de façon décalée. Ce sont ces agriculteurs et éleveurs. Il est évident que si on va travailler en Italie du Sud, où j'ai travaillé, le néolithique là-bas commence vers 6200, 6300 avant notre ère. Chez nous, c'est beaucoup plus tardif. Et pendant une assez longue période, il y a eu coexistence donc, dans nos régions entre des chasseurs-cueilleurs, peu nombreux et nomades, et des agriculteurs qui étaient des colons. C'était des gens qui venaient, pour nos régions à nous, c'était des gens qui venaient d'Italie, pour la plupart. Les premiers venaient d'Italie, puis ils se sont développés localement. Mais il y a toujours eu une opposition entre des régions vraiment agricoles, vraiment colonisées par des agriculteurs éleveurs, et des régions peuplées encore par les derniers chasseurs nomades, avec des conflits entre eux. Et peu à peu, il y a eu remplacement, mais ça n'a pas été instantané, ce remplacement. Il a duré longtemps. Donc notre région de la vallée de la Garonne, elle est intéressante parce qu'elle se situe au contact entre le monde des agriculteurs éleveurs méditerranéens, qui a commencé vers 5800 avant notre ère, et le monde des éleveurs nomades, qui a pu durer dans nos régions, au moins à l'âge du bronze, et vers le Pays Basque notamment, jusque vers 2000-1500 avant Jésus-Christ. Vous voyez, donc pendant longtemps, il y a eu cette coexistence entre deux mondes. Alors parfois ça se passait pacifiquement, parfois ça se passait mal, et il y avait des conflits. Alors, pour le début de ce néolithique, on a quelques sites dans la région, notamment un très près d'ici, qui était à Montbéreau, au bord de la route, là, avant le pont du Vol, qui était un abri que j'ai fouillé pendant une dizaine d'années, et qui a donné des niveaux d'occupation depuis le Mésolithique vers moins 10 000, jusqu'au début du néolithique vers 4500 avant notre ère. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cet abri ? Des traces de passage de nomades. Ils ont fait des petits foyers que vous voyez là. Alors, au néolithique, on ne cultivait pas directement à la braise et on n'avait pas de broche, on n'avait pas de grill en fer comme nous. Ils cultivaient sur des pierres chaudes. Ils faisaient chauffer des galets du bol dans des feux et puis ensuite, ils cuisaient les aliments sur ces pierres chauffées. Donc là, vous avez quelques exemples de ces foyers. Ils sont très petits, c'est 40 cm, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas 200 personnes dans l'abri. Il y avait peut-être une famille, un groupe de 7-6 personnes. Et autour de ces foyers, on a trouvé des quantités considérables d'escargots. Alors l'escargot, c'est un aliment qui est typique de la période mésolithique, c'est-à-dire la période intermédiaire entre le paléolithique et le néolithique. C'est un escargot qu'on trouve de nos jours encore, un escargot jaune avec des bandes noires, qui est un escargot forestier. Donc ces gens, ils chassaient le cerf et le sanglier, ils pêchaient dans le vol, ils mangeaient quelques castors qui vivaient à l'époque dans le vol, et ils mangeaient beaucoup d'escargots. Voilà, ils avaient un mode de vie donc très frugal et très nomade. Et puis ils consommaient aussi des noisettes, on a trouvé énormément de coques de noisettes brûlées. Voilà en gros le mode de vie au mésolithique, c'est-à-dire avant que les premiers néolithiques arrivent dans la région. On a trouvé des pointes de flèches dans ces sites-là. Ce sont des barbelures de flèches qui sont en silex. Évidemment, les hampes en bois ont disparu, mais il nous reste ces pointes qui sont typiques de cette période. Dans d'autres sites de la vallée de la Garonne, notamment à la Spougo de Gantis, donc à Gantis vers Saint-Gaudens, on a trouvé des poteries extrêmement mal faites. Ça n'a rien à voir avec les poteries qu'on trouve en général dans le néolithique. Les poteries néolithiques sont très bien faites. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement, des chasseurs-cueilleurs qui étaient là ont appris la poterie par leurs voisins néolithiques. Et donc, ils ne savaient pas encore très bien la faire. Ce qui explique que sur cette photo de droite en bas, vous voyez, on a les jeux, je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont fait de la poterie. C'est ce qu'on appelle la poterie au colombin, c'est-à-dire des rubans d'argile qu'on colle les uns sur les autres. Mais là, ils maîtrisaient très mal la technique, au point que les poteries se sont cassées selon les joints de colombin. Alors ça montre vraiment une mauvaise méthode, disons. Ces gens, ils savaient à peine faire la poterie. Et ce sont des poteries qui datent autour de 4700 avant le Christ. Dans la même grotte, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a trouvé le crâne d'un des plus anciens moutons connus en France. Alors vous allez me dire, mais il a des grandes cornes. Ce n'est pas vraiment les cornes, hein, c'est la cheville osseuse des cornes. Et en fait, ça peut s'expliquer, cette morphologie particulière, par le fait que les moutons du néolithique n'étaient pas du tout comme les moutons de nos jours. Ça ressemblait davantage à l'animal sauvage qui a été la source des moutons domestiques dans tout l'ancien monde, c'est-à-dire des mouflons. Alors de nos jours, on trouve des mouflons dans les Pyrénées. Ils ont été introduits à partir de la Corse. Pendant longtemps, on a dit, mais le mouflon est un animal qui existait en Europe, qui existait à l'état sauvage. En réalité, non. Les études des sites anciens de Corse prouvent qu'il n'y avait pas de moutons avant l'arrivée de l'homme. Il n'y avait pas de mouflons en Corse avant l'arrivée de l'homme sur l'île. Ça veut dire que ces mouflons, ce sont des moutons de l'époque néolithique qui avaient encore l'aspect de l'animal sauvage qui a donné le mouton domestique, qui est le mouflon oriental, c'est-à-dire un animal qui vit de nos jours en Iran. Et ces moutons, ils n'avaient pas de laine. Hein. Les mouflons, on les connaît. Il y en a encore dans les Pyrénées, qu'on a introduit récemment. C'était des animaux sans laine. Donc, ils étaient exploités essentiellement pour la viande et accessoirement pour le lait. Alors, je passe assez vite sur la cartographie. Là, récemment, j'ai eu l'occasion de travailler sur des vieilles collections qui ont été constituées dans les grottes pyrénéennes. Ces grottes pyrénéennes, pour la plupart, elles ont eu un mauvais sort. Ça a été le cas en particulier de la grotte de Bédéillac. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent cette grotte, qui est immense, hein, et qui a servi pendant la guerre, et juste avant la guerre, d'usine de réparation d'avions. Comme les Français d'abord, puis les Allemands, avaient peur des bombardements, ils faisaient réparer des Stuka, les Allemands notamment, dans la grotte. Évidemment, ils étaient à l'abri de bombardements parce qu'il y a 800 mètres de calcaire au-dessus de la grotte. Et malheureusement, ces travaux ont occasionné la destruction du remplissage archéologique qui était dans la grotte de Bédéillac. Mais malgré tout, un petit coin a pu être sauvé et des collections ont été récupérées. Et c'est, il est très intéressant ce néolithique. D'abord parce que c'est un des plus anciens de autour de 4700 avant notre ère. Et surtout parce qu'il a livré les restes d'un atelier de fabrication de haches pour dans une roche extrêmement dure, qui est locale, qu'on appelle le jade néphrite. Il y a deux jades. Retenez qu'il y a deux sortes de jades, qui sont des roches semi-précieuses. Le jade dit oriental, qui est le vrai jade, et le jade néphrite, qui est un jade en partie pyrénéen. Cette roche, elle est extrêmement dure, elle ne peut pas se tailler, parce qu'elle est fibreuse. C'est une roche qui est voisine de l'amiante. Hein. C'est une roche dont les cristaux sont fibreux. Et donc, elle était sciée. Et ça, c'est une technique néolithique inventée au Proche-Orient, mais qui a diffusé assez vite vers nous. Donc là, vous avez des blocs sciés, vous voyez, on voit des rainures très polies. Donc, on sciait ces blocs de roches très dures. Et comment on faisait? Avec des plaquettes de grès. Hein. Bon, là, j'ai ces photos qui sont des photos expérimentales faites par des archéologues pour étudier ce système. On a des plaques de grès qui sont insérées dans un système en bois, un peu comme les grandes scies à va-et-vient, vous savez, qui étaient manœuvrées par deux personnes, on appelle ça un passe-partout. Et avec du sable et de l'eau, on peut arriver à scier des roches très dures, mais évidemment, ça prend un temps infini. Il faut plus de 20 heures pour scier un bloc de roche. Et ensuite, une fois que ces blocs étaient sciés, on faisait des grands triangles hein, de ces roches sciées, et bien, on les polissait sur des petits polissoirs en grès. Voilà, des polissoirs de ce genre, des blocs de grès. Et on polissait avec de l'eau et du sable jusqu'à obtenir une hache polie finie. Alors voilà des exemples de ces haches trouvées à Bédéia. C'est petit, hein, en général, ça fait que 2 ou 3 cm. Ce sont des sortes de gouges qui servaient à travailler le bois. En voilà d'autres, vous voyez, certaines sont finies, d'autres en cours de fabrication. Ça prouve qu'il y avait un atelier dans la grotte qui travaillait cette roche. Une autre grotte qui a été fouillée dans la région, c'est la grotte des morts de Benex, à côté de Montségur. Là, on a trouvé des poteries de cette période, autour de 4700-4800. Vous voyez, elles sont ornées de sortes de cornes, de reliefs qui figurent des cornes, soit des cornes de caprin, soit des cornes de bovin. Et voilà, toujours pareil, c'est haches polies en néphrite sciée. Vous voyez là les traces de sillage sur les côtés. Voilà, d'autres exemples, je passe vite. Voilà, les restes de blocs sciés. Un autre habitat important, la grotte du Mas d'Azil. Elle est connue pour le paléolithique.
Et pour les gravures et peintures qui se trouvent à l'intérieur.
Mais c'est une grotte qui a été occupée aussi au néolithique. Mais malheureusement,
les premiers chercheurs, au XIXe siècle, ont pioché en...
Qu'est-ce qui se passe?
Vers là-bas, on t'entend plus.
Ah bon, pardon. Les premiers chercheurs cherchaient le paléolithique, les premiers archéologues. Donc le néolithique, ils l'ont foutu en l'air. Ils ont pioché, ils ont traversé toutes ces couches et ils ont récupéré quelques vestiges, mais très peu. Voilà ce qu'il reste du néolithique du Mas d'Azil qui est conservé au musée des Antiquités Nationales, à Saint-Germain-en-Laye, à côté de Paris. C'est le château de Louis XIV quand il était jeune. Et c'est Napoléon III qui a voulu ce musée où sont venues toutes les antiquités, les fouilles faites au XIXe siècle. On retrouve les mêmes choses que dans les autres grottes, c'est-à-dire des haches polies, des meules, des poissons, de la poterie. Alors, au cours de mes fouilles, moi j'ai trouvé quelques restes de cette période aussi. Notamment à Villeneuve-Tolosane, on a pu fouiller une fosse qu'on a appelée l'escargotière. C'est quoi? C'est un trou en forme de baignoire qui contenait des cendres et plus de 100 000 coquilles d'escargots. Ça veut dire que les gens qui vivaient là ont mangé les escargots tous les jours. Et il y avait quelques restes d'animaux consommés aussi. Et ces animaux
pratiquement que du sauvage, du cerf, du chevreuil, du hérisson, quelques restes de poisson, rien de domestique. Donc c'est assez curieux parce que ça veut dire qu'on a des néolithiques qui avaient des potes
pris, vous voyez, ils avaient de l'outillage aussi.
Néolithique, mais
de temps en temps, dans le courant de l'année,
ils vivaient comme des sauvages. Hein. Un peu comme aux États-Unis, au moment où il y a eu la confrontation entre les cow-boys et les Indiens, il y a des blancs, des Européens, qui sont devenus
Indiens, qui sont devenus chasseurs. Ils sont redevenus chasseurs,
en quelque sorte. Ben, ce phénomène
a dû se produire
aussi dans la région.
Et on a trouvé aussi à Villeneuve.
Lausanne, il y a un problème avec ce micro.
Voilà. On a trouvé les restes d'une autre fosse dans laquelle il y avait le squelette d'un nouveau-né, inhumé en position assise contre le bord de la fosse. Alors vous allez me dire, comment vous savez qu'il date de cette période? Ben, c'est simple, c'est qu'on l'a daté. Nous, on a une méthode qui permet d'extraire la partie organique de l'os, qu'on appelle le collagène, et ensuite, avec un accélérateur de particules, même en ayant un microgramme de collagène, on peut arriver à avoir une date, en passant, en le brûlant et en le passant dans un énorme compteur Geiger, qui compte les atomes un par un. Et on a obtenu une datation autour de 4600 avant notre ère pour ce nouveau-né.
D'autres sépultures de cette époque sont connues, notamment celles que je vous présente ici, qui ont été trouvées sur le coteau au-dessus de du départ de l'autoroute pour l'Andorre, dans le village de Montesquieu-Lauragais. Voilà, il y avait donc des fosses qui contenait des squelettes, dont une sépulture qui est d'un type assez rare, une sépulture double de deux personnes adultes qui étaient apparemment apparentées, parce qu'ils ont des anomalies osseuses qui étaient du même genre. Et comme ça se transmet génétiquement, on suppose qu'ils étaient parents. Il y a un homme et une femme, peut-être un frère et sœur. Mais il n'avait pas de mobilier. Alors, à partir de 4500 avant notre ère, là, tout change.
C'est une période où le néolithique devient bien affirmé, avec une colonisation de notre région par des grosses communautés d'agriculteurs éleveurs. Et cette période, elle est marquée avant tout par les échanges de biens précieux. C'est-à-dire que les sociétés du néolithique ancien, qui en général étaient égalitaires, deviennent des sociétés
stratifiées,
où il y a des gens riches et des gens pauvres. Et ces gens riches, ils donnent la preuve de leur pouvoir, de leur richesse, en accumulant des objets précieux. Quels sont ces objets précieux? Vous en avez quelques-uns ici. Des nucléus qui servaient à faire des couteaux en obsidienne, qui est un verre volcanique qui venait de Sardaigne. D'autres nucléus en silex blanc qu'on appelle bédouvien, qui venaient du Vaucluse et qui étaient échangés à grande distance. Des perles de collier qui servaient pour les parures, qui venaient de Catalogne, qui sont dans une roche apparentée à la turquoise. Et puis de grandes haches polies en jade. Alors un jade, ça peut être du jade alpin ou du jade pyrénéen. Bon alors, je passe vite, ça c'est le trafic de l'obsidienne. Voilà la zone en gros de diffusion de ces nucléus en
silex blanc.
Les haches en jade, certaines trouvées dans notre région, les deux qui sont figurées ici, viennent du Doubs, la Périac de Mer, dans l'Aude, et de Pezens. Donc Pezens, c'est un petit village de l'Aude qui est sur la nationale entre Toulouse et Carcassonne, où se trouve une chapelle au milieu de la nationale, pour ceux qui connaissent. Et voici d'autres exemples de ces haches qu'on appelle tapara, des haches de parade. Elles ne servaient pas vraiment de haches, mais c'était, disons, les objets précieux de l'époque. Une en jade alpin qui a été trouvée à Miremont, donc tout près d'ici.
et une autre en jade pyrénéen, en néphrite, qui a été trouvée à Montbéron, au nord de Toulouse. Et là, vous avez la carte de répartition de pH en jade, qui a été faite récemment dans le cadre d'un projet auquel j'ai participé. Il faut savoir que le jade jadéite, en Europe, n'est présent que dans les Alpes, autour du mont Viso, et qu'à partir de cette région, où les gisements de jade ne font que quelques centaines de mètres carrés, il y a eu une diffusion dans toute l'Europe, jusqu'au Danemark, en Écosse, et y compris jusqu'en Roumanie et en Bulgarie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette époque néolithique où on imagine des paysans, chacun vivant dans son petit coin, en fait, c'est faux. Il y avait déjà des contacts à l'échelle de toute l'Europe et des échanges entre les populations de ces diverses régions. Et on le sait ça grâce à ces éléments précieux. Ici, vous avez une vue des mines qui ont été trouvées à Gavà, à 10 km au sud de Barcelone. On a des mines où on extrayait ce minéral vert qui est une forme de turquoise. Et ce sont vraiment des mines qui s'étendent sur 7 km de long, donc c'est énorme. Et à partir de ces mines, on a exploité cette roche, et cette roche était ensuite diffusée dans toute l'Europe. Alors dans la région, plus prosaïquement, on trouve à partir de cette époque-là, donc de 4500, beaucoup d'habitats, de restes d'habitats, notamment des grands habitats, particulièrement à Villeneuve-de-Lausanne, que j'ai eu l'honneur de fouiller pendant 10 ans, au cours de travaux de construction de lotissement, à Saint-Michel-du-Touche, qui a été fouillé par des collègues ayant travaillé avant moi, notamment Louis Méroc, qui était un habitant venant de Caserre, pas loin d'ici, et d'autres sites dont je vais vous parler maintenant. Donc voilà des poteries du chassin ancien, c'est-à-dire vers 4300 avant notre ère. Alors, document intéressant, dans ces fosses de Villeneuve-de-Lausanne, on a trouvé des poids de métier à tisser. Ça veut dire que le tissage était pratiqué à cette époque-là. Et ce sont parmi les plus anciens restes de tissage qui sont connus en Europe. Donc ce sont des éléments intéressants. Vous voyez, ce sont des poids de métier à tisser en argile cuite. On a trouvé aussi des sépultures de cette période. Vous voyez là, un enfant inhumé dans une fosse, et juste au niveau de l'orbite droite, il y a une perle, une petite perle de collier en roche verte, en turquoise. Autre sépulture, un homme, là, d'une trentaine d'années, inhumé avec des offrandes, notamment des outils en os. À partir de 4000 avant notre ère, les choses changent et on voit apparaître des sites fortifiés. Donc avant, on est dans des villages d'agriculteurs apparemment pacifiques où on ne trouve que des silos. À partir de 4000, apparemment, la population devient très nombreuse et les gens commencent à se taper dessus les uns sur les autres. Donc qu'est-ce qui se passe? On fortifie les habitats. Comment on les fortifie? Ben, d'abord, en creusant des fossés. C'est un système qui a duré jusqu'au Moyen-Âge, avec la terre extraite de ces fossés, on construit ce qu'on appelle un vallum, c'est-à-dire une levée de terre, et au sommet de la levée de terre, on plante une palissade de rondins de bois. Alors évidemment, ce bois, il a disparu, mais on peut retrouver les tranchées de fondation de ces palissades. Alors ici, vous avez le plan de Saint-Michel-du-Touche, donc qui est le quartier à côté de l'hôpital Purpan, à Toulouse. Et on voit très bien que ces systèmes de grandes fosses, qui sont en rouge ici, ce sont des fossés, et les systèmes en bleu, ce sont des palissades. Donc en fait, c'était un site naturellement défendu par des talus, et il suffisait de barrer un côté par des palissades ou des fossés. Là, vous avez les restes d'une tranchée de palissade. Vous voyez, ça faisait quand même 2 mètres, une tranchée de 2 mètres de profondeur. Et au fond, on a trouvé les traces des poteaux qui étaient plantés. C'était des troncs d'arbres, hein, d'une vingtaine à 30 cm de diamètre. Donc c'était quand même un système défensif assez imposant. Une autre section de fossé. Ah, ça, je ne sais pas pourquoi ça apparaît. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Voilà, bon, écoutez, je passe vite sur Saint-Michel-du-Touche. À Saint-Michel-du-Touche, Louis Méroc et Georges Simonet ont trouvé, toujours pareil, en surveillant les travaux de construction, une grande sépulture qui était une chambre funéraire creusée dans le sol, qui contenait un très riche dépôt autour de deux lots d'ossements humains. Donc apparemment, une tombe de personnages importants de cette époque. Ils l'ont appelée d'ailleurs la tombe royale de Saint-Michel-du-Touche. Alors quel est le mobilier de ces tombes? Voilà pour le premier groupe, vous voyez, c'était uniquement des poteries, mais des poteries très belles et très décorées. Et le second groupe, c'était des pierres de silex, des grandes lames, des perles en turquoise, des assiettes, des outils à lance, et puis deux grandes plaques pectorales, sans doute, en calcaire. Alors, Villeneuve-Tolosane, c'est pareil, on a trouvé, en surveillant les travaux de lotissement et de construction pendant une dizaine d'années, on a pu récupérer pas mal de choses. Évidemment, ce n'était pas des conditions de fouille idéales, hein, parce qu'à l'époque, il n'existait pas de structure en France pour sauver les sites archéologiques. Maintenant, c'est complètement différent. Vous savez, on fait payer les aménageurs ou les mairies si une route se fait, et on fait les fouilles avant que les travaux aient lieu. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. Il fallait suivre les pelleteuses mécaniques, regarder s'ils détruisaient pas quelque chose. Et s'ils trouvaient quelque chose, le fouillaient très vite. En général, il est même arrivé parfois qu'on fouille la nuit, alors, parce que les bulldozers arrivent. Pendant 20 ans, l'archéologie en France a été faite comme ça. Alors on a trouvé pareil, des palissades, des restes de fossés, et ce qui est intéressant, à Cugnon, dans les fouilles faites par l'INRA, on a trouvé une concordance entre les systèmes de fossés qui sont représentés en rouge et des palissades qui sont représentées en bleu sur ce plan, qui montrent qu'on avait bien un système de vallon, c'est-à-dire fossés, palissades en bois, avec des petites portes étroites aménagées dans la fortification. Alors ce qui est particulier à Cugnon, c'est que autour d'un fossé, là, vers le haut, fossé 2, il y a des petits souterrains figurés en bleu ici. Donc sous le rempart, ils avaient creusé des sortes de chambres souterraines, et dans l'une d'elles, voilà l'entrée de ce souterrain. Dans l'une d'elles, il y avait un individu enterré qui était une vieille femme. Une femme morte pour l'époque, elle était vieille. Elle avait une cinquantaine d'années, évidemment. Mais pour l'époque, c'était déjà formidable d'arriver jusqu'à 50 ans. Et elle avait, vous voyez, la disposition des os n'est pas du tout normale. C'est pas celle de ce
squelette qui s'est décomposé dans la terre.
Donc on suppose que cette chambre était restée vide, que la personne avait été déposée sur un lit, et qu'ensuite, quand le lit a disparu, que le squelette, que le cadavre s'est décomposé, les os ont été dispersés. Donc vous voyez, là, on a des os sur presque 3 mètres de long, c'est pas normal, ça veut dire que c'était en élévation, et que lors de la décomposition, tout s'est effondré sur le sol. Et à côté se trouvait un dépôt fait d'une 7 ou 8 poinçons en os, fait sur des os de chevreuil. On ne sait pas trop à quoi servaient ces poinçons. On pense que ce sont des sortes d'outils de vannerie pour de la vannerie. Donc les femmes étaient peut-être liées à des travaux de vannerie. Alors je passe vite. Bon, à Villeneuve-Tolosane, il y a eu aussi des fossés, des palissades. Ça, c'est les restitutions que l'on peut faire, mais c'est hypothétique, évidemment. Et on en arrive à l'ampleur de ces sites, tel qu'on peut la reconstruire. Villeneuve-Tolosane, au départ, il y a eu des habitats fortifiés qui faisaient 4 à 5 hectares. Et à la fin de l'occupation, vers 3700 avant notre ère, on a des habitats fortifiés qui font plus de 30 hectares. Donc 30 hectares, on est presque à la dimension d'une bastide médiévale. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui vivait là, à l'époque. Alors, est-ce que ces gens vivaient toute l'année dans ces villages? On n'en sait rien. Parce qu'on n'a pas trouvé les restes de maisons, enfin, on n'a pas, c'est pas toujours très bien conservé. Mais il se peut aussi que ça soit simplement des lieux de rassemblement, où les gens faisaient des fêtes, et où ils venaient pendant 2-3 mois au cours de l'année, toutes les populations d'un territoire se réunissaient au même endroit, ce qui expliquerait la grande dimension de ces sites. On sait que ces sites n'ont pas été que des habitats, ils ont eu aussi une fonction funéraire. Là, vous avez des sépultures installées en général dans les fossés. Parfois, il y a des restes humains disloqués, hein, donc c'est des dépôts un peu particuliers. Et là, c'est la plus belle sépulture qu'on ait eu l'occasion de fouiller dans ce fossé de Villeneuve de Lausanne. C'était le squelette d'une femme d'une trentaine d'années qui avait été mise en scène. Sa tombe avait été, il y avait une sorte de mise en scène avant l'inhumation. Vous voyez qu'elle a deux grandes pendeloques en devant le visage, probablement c'était porté autour du cou, et en arrière se trouve un vase à colle, hein, c'est la bouteille de l'époque, donc un vase à liquide qui se trouvait dans le dos de la personne. Voilà, quelques détails de cette sépulture, et voilà le mobilier qui a été trouvé avec. Une autre sépulture avait été trouvée par Louis Méroc, donc dans le même coin. C'était là aussi la sépulture d'une femme qui se trouvait avec un lot de mobilier intéressant.
Notamment un vase avec un décor de soleil au fond.
Et tout un ensemble de parures, notamment ces fameuses perles en turquoise qui venaient de Catalogne. Voilà, des vues donc de ces parures. Alors le troisième site important de la région de Toulouse, il a été fouillé récemment, c'est le site de Château-Persin à Seille. C'est une opération préventive faite par l'INRA à l'occasion de la construction de la station d'épuration de Toulouse Nord. Il y avait un projet d'extension de cette station d'épuration, et donc comme on savait qu'il y avait un site là, des fouilles ont pu avoir lieu avant la construction de l'agrandissement de cette station. Bon, là c'est le plan, je passe vite, pour vous montrer des vues. Un fossé a été trouvé aussi à cet endroit. Mais ce fossé, il est de très grand intérêt, parce que contrairement au fossé de Saint-Michel-du-Touche ou de Villeneuve-de-Lausanne, où il n'y a pas eu d'incendie et où les restes de bois de structures ont disparu, sur le site de Château-Persien, il y a eu apparemment à l'époque néolithique une attaque de ce site. Le rempart a été incendié. On ne sait pas trop comment, hein, mais enfin, on suppose d'après qu'il y a eu un très grand feu qui a été fait. Et les restes de ce rempart, qui était constitué de troncs d'arbres et de mottes de terre, ont brûlé. Ils ont pris cette teinte rouge que vous voyez sur les photos. Donc les mottes de terre se sont cuites, et puis
tout le fossé, à la fin de l'incendie, est tombé dans tout ce rempart qui était là, en bois, en terre.
Tous les restes sont tombés dans le fossé, où on les a retrouvés. On a même pu retrouver sur certaines mottes l'emplacement de cornes de bovins, la trace des cornes qui étaient plantées dans l'argile et qui devait constituer le sommet du rempart. Donc vous imaginez un rempart en tronc d'arbre, avec des caissons remplis de mottes de terre, et au sommet, toute une ribambelle de cornes de bovins qui était censée empêcher, évidemment, d'accéder au sommet du rempart. Alors voilà, quelques vues de détails. Vous voyez, ces restes de mottes de terre, de briques, qui ont été cuites accidentellement, sont très bien conservés. Voilà, donc des restes de la fouille de ce rempart effondré qui a été brûlé. Et à côté de ces remparts, on a trouvé beaucoup de structures, notamment des foyers. Alors ces foyers, ils ont fait couler beaucoup d'encre dans les sites néolithiques de la Garonne. On trouve des foyers ronds, qui font un mètre de diamètre à peu près, remplis de galets chauffés, et puis des fosses beaucoup plus grandes, rectangulaires, qui sont parfois organisées en groupe. On sait que ce sont des foyers, parce qu'il y a des charbons, les pierres ont été manifestement brûlées. À quoi ça a servi? Ça ressemble au petit foyer que je vous ai montré tout à l'heure dans l'abri de Vidéoloup. Donc on peut penser que les petits servaient à faire la cuisine pour un groupe d'une dizaine de personnes. Par contre, les grands, ils posent problème, hein, parce que pourquoi faire des foyers? Alors certains archéologues ont pensé que ça pouvait être des fours, comme on peut en observer de nos jours encore dans certaines populations d'Océanie, des fours qu'on appelle des fours polynésiens. Ça permet par exemple, à l'occasion de la mort d'un roi, de faire cuire 50 cochons d'un coup et de nourrir pendant le temps des funérailles, qui peuvent parfois durer 10-15 jours, plus de 2000 personnes. Et curieusement, à Villeneuve-Tolosane, où on a trouvé plus de 400 structures de ce type, on a trouvé une fosse qui contenait les restes de 25 bovins, tous les restes osseux de 25 bovins, une dizaine de cochons, et 7 ou 8 moutons. Donc les restes d'un énorme festin, et on peut penser que peut-être ces grandes structures ont servi pour cette raison. Mais d'autres hypothèses ont été mises. On pense aussi que ces structures pouvaient servir pour malter des céréales et faire de la bière. Hein, parce que la bière, c'est la plus vieille boisson alcoolisée connue. Et vous savez, pour faire de la bière, on fait germer l'orge, mais ensuite on arrête la germination en torréfiant l'orge pour faire du malt. Et ensuite on broie ce malt, on le met dans l'eau. L'intérêt de cette torréfaction, c'est qu'elle transforme l'amidon en sucre. Et le sucre est après dissous dans l'eau, et c'est ce qui donne l'alcool de la bière. Donc on peut se demander si, dans certains cas, ça n'a pas servi à ça. À Villeneuve-Tolosane, on a trouvé un puits à eau, qui est parmi un des plus anciens de France. Un puits qui mesurait plus de 5 mètres de profondeur, qui a posé d'ailleurs pas mal de problèmes pour être fouillé. À l'intérieur, on a trouvé beaucoup de choses, et notamment des graines de céréales brûlées, ce qui permet de savoir qu'ils cultivaient du blé et de l'orge. On a trouvé beaucoup de silex, donc des silex blancs qui servaient pour faire des couteaux extrêmement taillants, hein. Ça taille autant qu'un rasoir actuel, des pointes de flèches, des grattoirs, etc., tout un tas d'outils. Alors, ces silex, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le silex ne se trouve pas partout dans la nature. Et il a des qualités différentes. Donc, l'intérêt de Villeneuve-Tolosane, c'est qu'on peut connaître l'origine de ces silex. On sait qu'une partie vient du Vaucluse, une partie vient de la région de Fort-Calquier, une autre vient de la région de l'Aquitaine, du Périgord, une autre vient de la Saint-Ange. Et une dernière partie vient de la région de Saragosse.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'à l'époque,
nos néolithiques ici n'étaient pas isolés.
Ils avaient des relations commerciales dans un rayon de plus de 300 km. Bon, je passe vite. Voilà en gros le réseau de relations qui peut être reconstitué pour Villeneuve-Tolosane. Alors, ce silex blanc en particulier est intéressant parce que il permettait cette taille, c'est une technique de taille particulière qu'on appelle la taille par pression. Donc au lieu de taper avec une pierre sur une autre pour obtenir des éclats, on comprime avec une baguette en bois flexible jusqu'à ce que la lamelle se détache. Ça permettait d'obtenir des tranchants d'abord beaucoup plus fins, et une très grande longueur de tranchant. On peut estimer qu'avec un petit bloc de silex de 7 ou 8 cm de diamètre, on peut faire plus de 150 lames. Donc vous voyez, il y a un effort de rentabilité au néolithique. L'importance de la diffusion de ce silex, c'est en gros, c'est autour de 300 km autour du Vaucluse. Donc ici, on est à la limite, la région de région de Toulouse est une limite pour la diffusion du silex blond. En gros, dans le Toulouse,
on a 90% de silex
blond, par contre, dans le Toulousain, à peine la moitié. L'autre spécialité de la région, c'est Monsieur Souléry en a quelques exemples dans son ouvrage, c'est le travail des galets de la Garonne. Alors là, évidemment, c'est la production locale. Ce n'est pas extraordinaire, mais enfin, c'était quand même assez efficace. Hein. On produisait des couteaux, on produisait des haches polies. On produisait aussi des meules avec des galets de granit. On faisait des meules à grains et des broyeurs. Et puis on produisait aussi beaucoup d'outils en os, et parfois des outils mixtes, avec un manche en os et une lame en silex. Alors ensuite, la vannerie, en général, elle n'est pas conservée, évidemment, on ne peut pas imaginer qu'un panier puisse durer pendant 5000 ans. Mais par contre, on peut trouver sur certaines poteries des empreintes de vannerie, donc on sait qu'ils avaient de la vannerie. Et puis quelques poteries luxueuses, des poteries d'écho, dont les décors étaient incrustés de pâtes colorées, rouges ou blanches, ce qui donnait des... C'était pas vraiment de la peinture, ils ne maîtrisaient pas la peinture, contrairement aux populations néolithiques d'Italie, mais ils maîtrisaient en gros des décors colorés, parfois polychromes, par des pâtes incrustées. Alors les maisons, on sait très peu de choses, il y a un plan qui a été publié, mais bon, on ne sait pas si c'est vraiment... Il y a des doutes là-dessus. Mais en tout cas, ça serait des petites maisons à abside de ce genre. Pourquoi on ne trouve pas de reste de maisons?
Parce que dans la région, les néolithiques ont construit en bois et en terre. Et comme le bois et la terre, ça ne se conserve pas.
Il est difficile, il n'avait pas de briques cuites hein, à l'époque, donc il est difficile de reconstituer ces maisons. On trouve beaucoup de silos. Les silos servaient à conserver les semences d'une année sur l'autre. Et puis ces fameux fours polynésiens, à Villeneuve-Tolosane, dans les fouilles que j'ai dirigées, là, entre, dans les années 80, on a trouvé 400 structures de ce type. Vous voyez, là, elles sont vues d'avion. Ça forme des ensembles organisés très importants. Et lorsqu'on projette tout ça sur le plan du site, vous voyez, on voit que ça occupe la partie centrale de l'enceinte. Donc c'était peut-être... zone centrale, une sorte de place publique de l'époque, que l'on faisait ces grands foyers, ces grands festins, dans lesquels on pouvait cuire des quantités astronomiques de viande. Alors j'aborde maintenant la fin du néolithique. La fin du néolithique dans la vallée de la Garonne, elle est beaucoup plus mal connue. On en a une idée de l'extension des populations de cette époque, par un outil particulier qu'on appelle la navette. Ce sont les outils qui sont figurés ici. Ce n'est pas du tout des navettes qui servaient à tisser. Hein. Ce sont des couteaux qui ont sur un côté abrupt, une sorte de couteau, par lequel on les tenait, et qui ont deux encoches qui permettaient de passer une corde. Et cette corde se terminait par un anneau qu'on pouvait passer autour du poignet. Ça permettait de ne pas perdre cet outil lorsqu'on récoltait les céréales. Parce qu'on récoltait les céréales, non pas en les coupant, mais en les arrachant. On arrachait les épis. Et les céréales, on ne ramassait que les épis. Donc évidemment, par un geste assez saccadé, on arrachait les épis et on stockait les épis dans des sortes de paniers, sans doute, qui étaient portés par les moissonneurs. Et du coup, au cours de cette opération, on pouvait perdre l'outil, pouvait tomber.
Donc ils avaient pris la précaution de prévoir un anneau de corde autour de
ces outils pour ne pas les perdre au cours du travail de récolte.
Alors voyez,
sur cette carte, j'ai représenté les navettes en bas, ce sont les points verts. Vous voyez, ça occupe tout à fait la zone
du bassin moyen de la Garonne.
Ce qui veut dire qu'on avait une tribu là, qui avait cette tradition et ce type d'outils. Et donc il y avait un ensemble culturel probablement dans cette région. Les habitats, très mal connus. On sait qu'il y avait des fossés et des palissades et des remparts, mais il n'y a qu'un site qui a été fouillé de cette période à Villeneuve-Tolosane. C'était un camp circulaire, d'une 180 mètres de diamètre, avec fossés et double palissade et remparts. C'est ce qui était figuré sur la fiche de la conférence. Là. Donc vous pourrez revoir, c'est une aquarelle faite par un aquarelliste italien qui a fait ça pour une exposition qu'on a faite à Villeneuve-Lausanne. Et en fait, vous allez me dire, mais pourquoi il a mis un épervier En fait, c'est un aquarelliste spécialiste des peintures d'oiseaux. Donc, on lui a demandé de faire la reconstitution du site imaginaire. Il l'a faite, évidemment, mais il a quand même tenu à rajouter ce qui est sa vraie spécialité, c'est-à-dire l'aquarelle d'oiseaux. Et il nous a figuré un beau rapace, là, en plein vol. Alors, ce qui est typique de cette période du néolithique final, en gros, entre 3000 et 2500, ce sont ce qu'on appelle les sépultures collectives. Alors, sépulture collective, ça ne veut pas dire qu'on mettait tous les morts dans le même trou, hein, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que au néolithique, on a des sépultures individuelles où on enterre les gens au fur et à mesure qu'ils meurent, dans des lieux différents, et donc on a souvent des sépultures individuelles. Par contre, à la fin du néolithique, on construit des monuments où sont enterrés tous les morts d'une même lignée, d'un même clan. Ça veut dire qu'au bout d'un siècle ou deux, on a déjà pas mal d'individus, et au bout de 10 siècles, on peut avoir jusqu'à 1000 ou 1500 individus mis dans le même caveau, hein, parce que ce sont des sortes de caveaux. Alors ces caveaux, s'ils sont enterrés sous terre, on appelle ça des hypogées, mais souvent ils sont construits avec des grosses pierres, c'est ce qu'on appelle les structures mégalithiques, les dolmens. Dans la région, ici, il y a tout un groupe de dolmens au Mas d'Azil, et dans la commune de Cerisol, c'est pas très loin d'ici, hein. Donc il y a tout un petit groupe de dolmens. En général, ils sont très ruinés. À l'époque, ils étaient sous un tumulus. Hein. Et de nos jours, ils ont été fouillés, ils ont été détruits, beaucoup ont été détruits au Moyen-Âge. Il ne reste que des tables de pierre, ce qui fait que les premiers archéologues ont dit « Ah mais ça, c'est pas des tombes, c'est des tables de sacrifice ». Ils imaginaient qu'on allait tuer des gens sur ces pierres. En réalité, non, ce sont des caveaux qui étaient à l'origine beaucoup plus complexes, enterrés dans des tumulus, et c'est l'érosion ou les travaux récents qui les ont souvent ruinés. Alors ça, c'est un dolmen du Mas d'Azil. Là, c'est un autre dont la photo a été récupérée sur une vieille carte postale, le dolmen de Bidot. Je crois qu'il y a 7 ou 8 dolmens dans la commune du Mas d'Azil. C'est un des groupes les plus importants de la région. Et puis, on a un autre groupe de monuments très intéressants dans la région de Lannemezan, Tarbes, le plateau de Gers. Là, on a des grands tumulus qui étaient très bien conservés, mais qui malheureusement ont été fouillés pour la plupart au XIXe siècle par des érudits locaux, avec des ouvriers, ça a été fouillé à la pioche. Donc la plupart de ces monuments ont été très mal fouillés, on a peu d'informations. Et souvent, d'ailleurs, il ne reste plus rien des objets qui ont été trouvés à l'intérieur. Alors, quand même, le plus grand, le Poïmaïou à Bartrès. Voilà, je vous donne une vue là que j'ai piquée sur Internet, sur le site de Best Tarbes, qui est le plus grand de la région. Hein, le plus grand, d'ailleurs, son nom veut dire le grand tumulus. Hein, déjà, ça a marqué les gens du XIXe siècle. Voici une photo au moment de la fouille par Édouard Piette en 1880. Vous voyez, c'est quand même un monument très important, avec de très grosses pierres. Vous voyez la taille des individus. Hein. C'est un coffre de pierre, en fait, de plus de 7-8 mètres de long, 2 ou 3 mètres de large, presque 2 mètres de haut. Et il contenait, évidemment, beaucoup d'ossements, beaucoup de mobilier. Mais comme ça a été fouillé à la pioche, il nous reste peu de choses, peu d'informations. Alors voilà les éléments de mobilier qui ont été venant de ce monument. Ce sont les perles que vous voyez là dessinées sur le dessin d'Edouard Piette et un couteau en silex. En réalité, il y a eu un problème de cette fouille. C'est-à-dire que Edouard Piette, il était trésorier payeur du Gers. Et il n'est pas venu fouiller lui-même. Il a fait fouiller un fermier, un métayer qu'il avait, avec des ouvriers agricoles. Et ces ouvriers, ils ont trouvé une perle en or. Donc de suite, ils ont envoyé un télégramme à Hoche, où était leur Piette. Ils lui ont dit « Formidable, on a trouvé un collier en or !» Donc Piette, évidemment, est venu, mais quand il est arrivé, il n'y avait qu'une paire. Alors évidemment, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais en fait, ils ont trouvé le collier, mais ils l'ont gardé. » Et puis Piette, quand même, bon, il avait confiance dans son contremaître, et il a pensé qu'il disait la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule perle en or. Cette perle, on ne sait pas où elle était, mais pour vous donner une idée de la forme qu'elle devait avoir, elle n'est pas conservée, hein, au Musée des Antiquités Nationales, on ne l'a pas retrouvée. Donc quelqu'un a dû la barboter. Je vous donne une image là de deux perles en or qui ont été trouvées dans les hypogées de Fontvieille, à côté d'Arles, qui sont exactement les mêmes, vous voyez, d'après le dessin. Alors, comme il y avait quand même un doute sur le nombre des perles, est-ce qu'il y avait un collier ou non, etc., dans la publication originale, Édouard Piette avait fait refaire des copies d'après la seule perle conservée et a pensé que ça pouvait former un collier qui avait cette forme. Mais c'est totalement spéculatif, évidemment, ce n'est pas la vérité. Un autre tumulus à côté de Bartrès a donné un beau poignard en silex. Hein, un beau poignard en silex, vous voyez, très bien travaillé. Ça ressemble à un poignard égyptien. Hein. Ça, c'est un travail de spécialiste. Et il est en silex de fort qualité. Le même tumulus a donné cette grande hache-là, une grande hache polie, en roche tenace, qui fait plus de 20 cm de long, et une autre lame en silex, qui est probablement importée de la région du Priorat, en Catalogne. Donc, vous voyez, à cette époque, les personnages importants, ils étaient plus riches qu'au néolithique, puisqu'ils avaient des objets en or, des objets en cuivre, de très belles pièces en silex. Un autre monument important de la région, c'était le tumulus de la Halliade à Bartrès, un grand tumulus de presque 30 mètres de diamètre, qui contenait une succession de dolmens. C'est-à-dire qu'on avait rajouté des dolmens au fur et à mesure du temps, ils avaient rajouté les uns aux autres, jusqu'à arriver à une dizaine de monuments alignés. Le plus ancien, il doit dater des alentours de 3000, autour de 3000 avant notre ère. Celui qui est figuré en couleur bleue, là, il est autour de 2500, et les autres sont de l'âge du bronze. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnages importants étaient toujours, c'était des sortes de rois à l'époque, hein, toujours enterrés dans le même lieu. Et même à l'âge du fer, c'est-à-dire vers 700 avant Jésus-Christ, on a rajouté la tombe d'un guerrier au-dessus des anciens dolmens. Un monument comme celui-ci, pratiquement, il a pu durer presque 2000 ans. Il est pendant presque 2000 ans. Alors, pour la période néolithique, il a donné un collier avec des perles en turquoise venant de Catalogne et une pendeloque en or. Alors, ces objets ont disparu. On ne sait pas où ils sont. On les a cherchés au Musée des Antiquités Nationales, on ne les a pas retrouvés. Par contre, on a retrouvé deux gobelets campaniformes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, gobelets campaniformes? Ce sont des types de vases qu'on appelle campaniformes, parce qu'ils ont été, les premiers ont été trouvés en Espagne, et vous voyez, ils ont la forme d'une cloche de vache, une campana en espagnol. Donc on les appelle vases campaniformes. Des études ont été menées dans certaines tombes sur le contenu de ces vases, le contenu résiduel qui peut être conservé dans ces vases. Et on a trouvé des traces de boissons alcoolisées, sous forme d'amidon, de bactéries spéciales, des boissons alcoolisées. Et même dans un tumulus de la région de la Castille, en Espagne, on a trouvé des restes de pavots. Donc il semblerait qu'à l'époque, on faisait des cérémonies où on utilisait ce genre de vase pour boire des boissons alcoolisées, probablement de la bière, de l'hydromel, dans lequel on rajoutait une bonne dose de pavot, d'opium, ce qui permettait de tourner la tête. Donc vous voyez, ces histoires-là d'addiction, c'est pas nouveau, quoi. C'est quelque chose qui remonte très loin dans le temps. Et ça a dû avoir cette formule-là de banquet avec des boissons alcoolisées, voire des drogues. Ça a eu un énorme succès en Europe, au point que ces vases campaniformes, on les trouve dans toute l'Europe, y compris même une partie de l'Afrique, dans le Maghreb. Donc ça a eu un succès énorme. Et on pense que la diffusion de ces vases est liée à un peuple qui a, qu'on appelle le peuple campaniforme, ou en anglais le beaker folk, qui sont des gens qui étaient des commerçants, mais qui savaient amadouer les populations locales avec des pratiques particulières, qui diffusaient aussi le métal, qui diffusaient l'or et le cuivre, et surtout, chose très importante, c'est avec eux qu'arrive le cheval. Donc ça c'est important, parce que c'est évidemment, ces gens, s'ils étaient cavaliers, sur mer, ils ont peuplé toutes les îles, mais si en plus ils avaient des chevaux domestiqués, ça leur donnait un avantage considérable sur les populations locales qui ne connaissaient pas le cheval. Et on peut parler des premiers peuples de guerriers, hein, c'était des guerriers. Alors au néolithique final, on a d'autres échanges donc de lames de silex, notamment les lames, très belles lames en silex roux, venant de la région de la Touraine, hein, de la région du Grand Précigny, que l'on peut trouver jusque dans la région ici. Des poignards de type fort calqué, dont je vous ai montré un exemplaire tout à l'heure. Et puis des grandes lames et d'autres pièces plus ou moins précieuses. Alors parmi ces découvertes, la plus intéressante, elle est régionale, elle vient de Pauillac, dans le Gers. Donc c'est à côté de Lectoure. Au XIXe siècle, en construisant la ligne de chemin de fer Agen-Auch, pour trouver du ballast pour mettre sous les rails, on a creusé des gravières. Et dans une gravière de ce coin-là, de Pauillac, il a été trouvé tout un lot d'objets, donc des haches en jade, des grandes lames de silex, et des objets en or, notamment un collier avec les mêmes perles qu'au Poimayou, là, que vous voyez sur la photo en noir et blanc, et puis une sorte de diadème sur une plaque d'or ornée au repoussé. Alors évidemment, ça fait couler énormément d'encre. D'autant qu'apparemment, les ouvriers qui ont trouvé ça, ils ont donné les deux premières pièces, celles qui sont dessinées, à l'ingénieur en chef de la voie ferrée, qui s'appelait Bischoff. Mais par contre, sous le couvert, ils ont vendu d'autres objets à un comte qui passait par là, qui était un collectionneur, qui s'appelait le comte de Chastenier, qui était un bordelais. Et le second lot d'objets, il a été récupéré que dans les années 20, alors que la première découverte avait eu lieu au XIXe siècle. Ça a posé beaucoup de problèmes, hein, cette découverte. D'abord parce que certains nombres d'objets, notamment le collier de perles en or, a disparu. Il a été volé au musée de Bordeaux, probablement par un familier ou un employé du musée. Donc voici ce qui reste de nos jours et que l'on peut voir au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Donc ce qui est bizarre dans ce lot d'objets, c'est qu'on a deux haches en jade alpin, qui sont des objets datant sans doute de vers 3000 avant Jésus-Christ, de vers 4000 avant Jésus-Christ, et puis des lames, un silex de fort calquier qui doivent dater autour de 3200 avant notre ère, puis cette espèce de diadème en or et des perles en or, qui doivent dater sans doute d'une période plus récente, et puis deux pendeloques avec des dents de sanglier, vous voyez, percées. Donc c'est un lot qui a fait couler énormément d'encre, parce que, en fait, on a des objets précieux très intéressants, mais on connaît mal les circonstances de la découverte. Et notamment, on ne sait pas si c'était un lot trouvé avec la tombe d'un seul individu, ou si, comme à la Yade, il y avait plusieurs tombes. Toujours est-il qu'à partir de 2500, le silex, les haches polies, tout ça s'est abandonné. Pourquoi ? Parce que le métal devient fréquent. Le métal existait au néolithique, il était connu, mais c'était vraiment très très rare. Et c'était souvent des objets importés d'Europe orientale. Par contre, ici dans la région, l'âge du cuivre, ce qu'on appelle l'âge du cuivre, où pratiquement tout l'armement et l'outillage étaient faits en métal, en cuivre d'abord, puis ensuite en bronze, ça remonte aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ. Et les fameux campaniformes, dont je vous ai dit quelques mots, ils sont sans doute pour quelque chose. Donc on a dans la région aussi quelques objets en cuivre notables, notamment l'épée en cuivre dite du Vernet, qui a été trouvée à Saverdun, c'est pas très loin d'ici, au XIXe siècle, apparemment dans une tombe. C'est un long poignard ou petite épée qui fait une trentaine de centimètres de long et qui est typique des productions du campaniforme, qui est sans doute une importation venant d'Espagne. Alors, à partir de ce moment-là, à partir où le métal, du moment où le métal est connu et diffusé, en Europe, on va avoir un grand changement dans la société qui va accorder une grande place à l'artisanat et au commerce. Mais surtout, cette innovation, elle a été, qui au départ a pu être bénéfique pour l'outillage, elle a été surtout orientée vers la production d'armes, des lances, des pointes de flèche, des épées, des armures. Hein. Voilà ce qu'on appelle l'âge du bronze. C'est-à-dire qu'on rentre dans une société, un monde de guerriers. Et ce monde de guerriers, il a continué jusqu'à la place du fer.
Et on en a une évocation, évidemment, par les textes antiques, hein. Que ce soit l'Iliade, l'Odyssée,
et tous les textes ultérieurs, jusqu'à la guerre des Gaules de César, où on voit que les sociétés de l'époque, cette époque antique, étaient des sociétés dans lesquelles la violence et la guerre jouaient un rôle énorme. Et donc on rentre là dans un autre monde. Le monde du néolithique a probablement été un monde relativement pacifique, même si je vous l'ai dit, il y a eu quelques conflits. Par contre, à partir de l'âge du cuivre et puis de l'âge du bronze, on a vraiment une société qui devient une société guerrière. Voilà, je terminerai sur ces mots, qui sont peut-être pas très optimistes, surtout par les temps que nous vivons ces jours-ci, mais qui sont quand même une réalité et qui montrent que ces réalités de violence, etc., plongent vraiment très loin dans nos racines. Voilà, je vous remercie.
Vous savez qu'après la conférence, il y a la possibilité à tout un chacun de poser les questions qu'il souhaite. Donc, y a-t-il des questions dans la salle ?
Si on revient à l'époque où les chasseurs-cueilleurs étaient en opposition avec les premiers fermiers, est-ce que sur ces chasseurs-cueilleurs, on a une idée du périmètre ou de la zone dans laquelle sur lesquelles ils se déplaçaient ?
Alors oui, on en a une idée. On en a une idée, d'une part, par les silex que l'on peut trouver, qui ne sont pas toujours d'origine locale. Par exemple, à Montbéreau, là, l'abri dont j'ai parlé, qui n'est pas très près d'ici, les hommes du Mésolithique ont utilisé surtout les silex locaux des petites Pyrénées, hein, les silex qu'on peut trouver même à l'état de galets dans le vol. Mais on a trouvé aussi quelques pointes de flèches qui sont en silex venant de la région de Sauveterre-la-Lémance et de Fumel, c'est-à-dire des silex qui venaient du Périgord. Donc les gens, ces chasseurs-cueilleurs, ils circulaient, ils suivaient les troupeaux, ils devaient avoir des cycles annuels de pérégrination. Et il devait avoir des territoires très grands. On a trouvé aussi des coquillages à Montbéreau, qui servaient de parure. Hein. Certaines viennent de la Méditerranée et d'autres de l'Atlantique, ce qui veut dire qu'ils pouvaient circuler sur 300-400 km de rayon. Par contre, les néolithiques, on pense que les néolithiques, ils circulaient aussi. Mais chez les néolithiques, il y avait des commerçants. C'était les commerçants qui circulaient. Les paysans, les agriculteurs, ils devaient rester au niveau local. Mais ils recevaient... En fait, ce sont des sociétés très modernes. Parce qu'au début du néolithique, on peut estimer que les gens fabriquaient à peu près tout ce dont ils avaient besoin. Ils le fabriquaient eux-mêmes avec leurs ressources. Mais à la fin du néolithique, et surtout à l'âge du cuivre, tout ce qu'ils utilisaient était importé. C'était importé dans un rayon de 500 km. Donc on est dans une société où l'homme au départ était producteur-consommateur de ce qu'il produisait, mais à la fin du néolithique, on est dans une société où ceux qui consomment ne sont pas les producteurs. C'est très moderne comme concept. On est dans des sociétés déjà extrêmement évoluées.
Et il fallait donc qu'il y ait des productions locales qui puissent...
puissent s'échanger.
Oui,
c'est ça le système.
Bien entendu, il y avait des échanges, ce qu'on appelle des échanges. Alors ces échanges, en général, ça pouvait concerner. Si on se réfère au modèle des Indiens dont je parlais, hein, vous le savez, les Européens, qu'est-ce qu'ils récupéraient de la part des Indiens? Des peaux. Donc on peut imaginer que quand il y a eu cette confrontation chasseurs et cueilleurs, premiers agriculteurs, que les mésolithiques pouvaient fournir des peaux d'animaux, des peaux tannées, qui servaient à faire les vêtements. Et on sait que les vêtements de l'époque néolithique, c'était essentiellement du cuir. On en a la preuve par l'homme qui a été trouvé dans le glacier des Alpes. Il est entièrement couvert de peaux, hein, et de diverses sortes d'animaux. Ou bien des tissages, ça pouvait être aussi des tissages. Dans les régions où il n'y avait pas de roches précieuses, où il n'y avait pas de silex, où il n'y avait pas de hache polie, on pouvait produire des peaux, produire des tissages. Chaque région devait avoir sa spécialité.
Est-ce qu'on a une idée comment les commerçants se sont déplacés parce qu'il n'y avait pas de chemin là. Est-ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont amené, ils ont porté sur eux-mêmes ou ils avaient déjà des animaux domestiqués pour porter les marchandises?
Oui, c'était pas des quantités énormes. Hein, c'était pas des quantités énormes, mais ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, on trouve des cachettes. On trouve des cachettes d'objets précieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des commerçants avaient des endroits où ils stockaient. Par exemple, dans la région, ici, on a trouvé des lots de haches polies, pas finis, des grandes haches polies. Par exemple, dans le quartier Sainte-Anne, à Toulouse, on a trouvé un lot de 3 grandes haches polies faites dans une roche qui venait de l'Aveyron. Elles n'étaient pas finies et elles avaient été enterrées à Toulouse. Ça veut dire que ces commerçants, ils devaient avoir des petits stocks. Et pour, dans les cas où ils craignaient d'être pillés, d'être dévalisés, ils stockaient des objets. Ils avaient des stocks un peu partout. Et ça leur permettait d'organiser en gros leur commerce. Mais ce qui est quand même le plus grand vecteur au niveau des relations pour l'époque néolithique, c'est par les rivières. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même eu la chance de trouver, notamment dans la Garonne, mais aussi dans l'Adour, des restes de pirogues en bois qui étaient noyés au fond des rivières et qui ont été sortis accidentellement par des dragues. Hein. Ce sont ce qu'on appelle des pirogues monoxyles, c'est-à-dire une grande pirogue, comme on a de nos jours en Amazonie, hein, qui fait 10 mètres de long, qui est taillée dans un énorme tronc de chêne, qui est évidé au feu. Et évidemment, ça permettait de circuler sur les rivières, hein, avec des perches ou avec des rames. Et lorsqu'on étudie les réseaux d'échange, justement, on s'aperçoit que souvent, les objets diffusés sont le long des rivières. Donc c'est pas un hasard. Hein. C'est-à-dire que les grands axes de circulation, au néolithique et même à l'âge du bronze, c'était les rivières. Et il y a un des archéologues de la région, ici, qui s'appelle M. Paulin, qui a eu la bonne idée de fouiller à haute rive un guet. Il y avait un guet sur l'Ariège, je crois, à haute rive. Et en fouillant ce guet, il a trouvé une quantité astronomique d'objets qui étaient piégés dans des marmites de géants, dans des trous, fait dans la roche. Il a trouvé beaucoup d'objets en bronze, des armes, des parures, des épingles, tout un tas d'objets. Ce qui veut dire évidemment les fleuves à l'époque jouaient un rôle considérable.
Vous n'avez pas parlé des grottes.
Alors les grottes ornées, ça peut exister au néolithique, mais c'est très rare. Hein. La grande période du grottes ornées, c'est le paléolithique. Pourquoi? On peut se poser la question. Pourquoi les grottes ont été peintes au paléolithique et pas au néolithique? Au paléolithique, il y a une explication quand même qui fait que, vu que le climat était glaciaire, l'essentiel de l'humidité, pendant une grande partie de l'année, était stocké sous forme de neige sur les montagnes. elle ne s'infiltrait pas à l'intérieur de la roche. Donc les grottes, vous savez que plus on descend sous terre, on gagne 2 degrés tous les 100 mètres, ou tous les 200 mètres, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est certain, c'est qu'au paléolithique, dans les grottes, il faisait beaucoup plus chaud que maintenant. Donc actuellement, il y a beaucoup de grottes qui sont à 10, 12 degrés toute l'année, ça ne varie pas. Mais on peut imaginer qu'au paléolithique, elles étaient à 20 degrés de chaleur, alors qu'il faisait moins de 40 dehors. Donc évidemment, c'était intéressant pour les hommes du paléolithique d'aller se balader au fond des grottes. Alors pourquoi ils ont fait les dessins, ça évidemment, c'est une autre question. Il y a sans doute des motivations religieuses. Certains ont parlé de chamanisme, etc., enfin, d'initiation. Enfin, c'est un problème très compliqué. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Mais sans doute des motivations religieuses, certainement. Et au néolithique, par contre, les grottes sont utilisées comme habitat ou comme lieu de sépulture, mais il n'y a jamais de peinture. Il n'y a jamais de peinture. Sauf des cas exceptionnels. Je ne connais que... enfin, il y a des cas. Ça dépend des pays, si vous voulez. En Italie, on a une très belle grotte ornée, qui est la grotte de Porto Badisco, à côté de Bari, qui est une très belle grotte ornée du néolithique, dans laquelle on a figuré surtout des personnages humains. De façon schématique, et, ou bien des scènes de chasse au cerf. En Espagne, il y a ce qu'on appelle l'art du Levante aussi, du Levante espagnol. Ce sont des petits avrils dans lesquels il y a beaucoup de peintures qui se sont conservées parce que ces régions sont très sèches. Alors, il est possible qu'ici, il y ait eu beaucoup de peintures sur les parois à l'extérieur. Mais avec notre climat océanique, il y a peu de chances, évidemment, que ces peintures se soient conservées. Mais les peintures du Levante en Espagne, elles sont très petites, hein, ça fait un personnage humain, il fait 15 cm maximum. Tandis qu'au paléolithique, si vous allez à Lascaux, la vache principale là, de Lascaux, elle fait 4 mètres de long. Enfin, c'est formidable, voilà, paléolithique, c'est formidable. Au néolithique, on est dans de l'art de miniature. Hein. Et souvent, ça, ce qui est représenté dans cet art néolithique du Levante espagnol, c'est-à-dire la région d'Alicante, hein, essentiellement, ce sont des scènes de chasse au cerf ou bien des scènes de guerre où on voit un groupe humain qui flèche un autre groupe humain. On a même des scènes où un individu est massacré par un groupe d'archers. On a des scènes de violence qui montrent que ces sociétés n'étaient pas du tout pacifiques quoi, à cette époque-là. Ah, ça peut être intéressant.
Et est-ce que ça signifie qu'il y avait un habitant, qu'il y avait des populations fixées à cet endroit, ou c'était une grande passage?
Alors, les H-Poli, si on les trouve à l'état isolé, c'est normal, il y en a un peu partout. Pourquoi? Parce que c'était des haches pour couper du bois. Hein. Donc on peut en trouver partout. Mais lorsque vous en trouvez 50 au même endroit, ça veut dire que là, il y a un habitat ou un atelier de fabrication. Alors, dans la région, il y a beaucoup d'ateliers de fabrication de H-Poli. À partir des galets durs de la Garonne, hein, les roches noires, le plus important, il est au confluent du Volp et de la Garonne, à Tersac, un endroit qui s'appelle Tersac, à Caserne. Et cet endroit, c'était le lieu de naissance du fameux Louis Mérogue, dont je parlais, là, qui a été un grand archéologue de la région. Il habitait même à Tersac, donc il avait trouvé carrément dans son jardin. Et quand j'ai étudié ses collections, sur Tersac, il a trouvé 1500 haches polies. C'est énorme. Mais on a trouvé aussi à Caserne des grandes haches en jade. On peut trouver des haches en jade dans la région. Récemment, je suis allé voir une grande hache chez un monsieur à Bordes-sur-Arise. Mais je croyais qu'elle était alpine, parce qu'on m'avait dit qu'elle mesure plus de 25 cm. En réalité, elle est locale. Enfin, elle est quand même respectable.
c'est moi qui ai le micro.
Pardon.
Bon, d'abord, je vous dis merci. Et maintenant que j'ai le micro, je pose deux questions. La première, on sait que dans les colonisations récentes, les colons apportaient des maladies. Et je voulais savoir si on observait le même phénomène, là. Et puis, deuxièmement, j'ai lu plusieurs fois, et ça m'a surpris parce que ça paraît contradictoire, que les gens du néolithique étaient en moins bonne santé et mangeaient moins bien, en tout cas, peut-être une alimentation moins variée que les gens du paléolithique. Et je voulais savoir si c'est vrai et une explication.
Bon, alors, sur les maladies, on ne sait pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que les chairs sont pratiquement jamais conservées. On n'a que les os. Les gens mouraient jeunes. Ce qui est certain, c'est que les gens mouraient jeunes. Parce que dans ces fameuses sépultures collectives dont je parlais, on peut trouver jusqu'à 300, les restes de 300 squelettes. Avec les dents, on peut calculer, on peut faire une courbe, une courbe d'âge à la mortalité. D'accord ? Qu'est-ce qu'on observe ? Énormément d'individus jeunes. On ne trouve jamais de nouveau-nés ni de fœtus. Pourquoi ? Parce que probablement ils n'étaient pas enterrés. Tant qu'ils n'étaient pas initiés, ils n'avaient pas le statut de défunt. Donc les nouveau-nés, les avortants, etc., on les trouve dans les habitats, enterrés comme ça dans le sol, sans sépulture. Par contre, dans ces grands monuments, on trouve à peu près 60% de moins de 20 ans, 50, et parmi eux, 40% de moins de 10 ans, et puis après, on trouve quelques personnes d'âge adulte, voire très âgées. Ils pouvaient vivre jusqu'à 70 ans, mais c'était 1 sur 1000. Oui. Ça veut dire quoi ? Que les maladies infectieuses faisaient leur effet, et que les gens jeunes mouraient dans la jeunesse de maladies infectieuses. Mais on ne sait pas lesquelles. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'était déjà la grippe ? Est-ce que c'était d'autres maladies ? On sait qu'au XVIIe siècle, la variole faisait des ravages énormes en Europe. Donc on peut imaginer qu'il y avait des maladies, des épidémies comme ça qui tuaient beaucoup de gens. Dans d'autres cas, on a trouvé ce qu'on appelle des sépultures de catastrophe, c'est-à-dire qu'on trouve toute une population inhumée au même endroit, avec des jeunes, des gens âgés de tous âges. Donc on se dit une épidémie, un phénomène de mort massive est intervenu, mais on ne peut pas savoir la cause réelle de la mort. Les seules certitudes qu'on a, c'est qu'il y a quelques cas de tuberculose qui sont documentés. Comment on peut le savoir ? Parce que la tuberculose, quand vous avez une caverne, ce qu'on appelle une caverne dans les poumons, ça se calcifie. Et il se forme une espèce de calcul en calcium. Et si on fouille bien, et si on a l'œil d'un médecin, parce qu'il faut quand même, c'est pas n'importe qui peut observer ça, on peut arriver à trouver des calculs. Lorsqu'on fouille une sculpture, qu'on a un squelette, si on a un morceau de calcaire au niveau du thorax, on peut se dire, est-ce que c'est un calme tuberculeux ? Autre conséquence de la tuberculose, c'est ce qu'on appelle les bossus, vous savez, les bossus, colonne vertébrale avec toutes les vertèbres soudées, c'est une conséquence secondaire de l'infection par la tuberculose. Donc ça peut arriver qu'on trouve des vertèbres complètement soudées, moi j'en ai vu venant d'un domaine de Normandie, on avait une colonne vertébrale totalement soudée, toutes les vertèbres. Donc c'est quelqu'un qui a dû horriblement souffrir. Donc on peut supposer qu'il y avait des maladies comme ça, qu'il y avait des atteintes osseuses. Mais le phénomène le plus surprenant pour ces squelettes préhistoriques, c'est le cas des trépanations. Alors on trouve énormément, dans certaines régions, on trouve énormément de crânes trépanés. Parfois trépanés deux fois. Hein, ça veut dire que, première trépanation, il a survécu, le crâne s'est refermé, et on lui en a fait une deuxième. C'est vraiment... Alors, pourquoi on a fait ça ? Donc là, il y a plein d'hypothèses, parce qu'on ne sait pas réellement pourquoi. Mais dans certaines régions, comme l'Aveyron, par exemple, on peut avoir jusqu'à 20 ou 30% de la population trépanée. C'est énorme. Et c'était trépané au silex, donc vous imaginez. Hein, Enfin, on sait quand même qu'ils avaient du pavot, hein, parce qu'on trouve des graines de pavot. Donc ils pouvaient endormir déjà. Mais malgré tout, on va ouvrir un crâne avec un silex, ils vont... c'est spécial. Alors on ne sait pas pourquoi ils faisaient ça. Certains ont dit c'était pour soigner. Vous savez, quand on a trop de liquide céphalo-rachidien, le crâne peut avoir tendance à éclater. Et donc, il faut faire une trépanation pour libérer le liquide. C'est attesté ce cas pour un crâne du paléolithique. Où il est hypertrophié et trépané. Donc, il y a une raison. Voilà. Pour les autres, on a dit c'était pour eux une façon de soigner l'épilepsie. On peut supposer que dans certains groupes, avec des mariages endogames, l'épilepsie pouvait se diffuser, qu'il pouvait y avoir beaucoup de gens épileptiques, et que la trépanation pouvait être un moyen d'essayer de guérir. Mais dans d'autres cas, ça peut être totalement rituel. Ça peut être des trépanations rituelles. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, et en fait, on n'a pas beaucoup de preuves. Ce qui est certain, c'est qu'on a fait aussi des trépanations post-mortem. C'est-à-dire qu'après la mort d'un individu, on lui a enlevé une rondelle, et cette rondelle, souvent, elle est percée, et les gens la portaient dans un collier. Et c'est-à-dire garder une relique du mort. Bon, les pratiques bizarres. On a d'autres pratiques où les dents sont limées en pointe. Ça, c'est connu en Amazonie, on sait que... Bon, on a des cas comme ça. Dans notre cas, ce sont des atteintes osseuses. On ne peut trouver que les atteintes mécaniques qui laissent une trace sur les os. Dans d'autres cas, on a trouvé des dents anormalement usées dans les interstices entre les dents. Ça, c'est pas du tout rituel, rien. C'est que on connaît cette pratique par les Esquimaux, où les gens font des cordes. Ils font des cordes en les tordant et en les passant entre les dents. Des cordes en nerfs, en boyaux d'animaux, hein, des trucs comme ça. Donc là, c'est lié à une pratique artisanale. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire.
Excusez-moi, j'aurais juste dire un petit mot. Au vu de l'heure, je pense qu'on va continuer la discussion pendant le repas partagé, parce que là, sinon, à 10h à peine, on va commencer à manger. D'accord. Je pense que ça sera un peu tard. Si vous voulez bien, donc, continuer votre discussion, les réponses aux questions pendant le repas partagé.
Merci.
Et ouais, le temps à gauche. Il y a le temps à gauche.